Chapitre 2. Une femme comme il y en a tant. Un soir, Marcel et Lucien étaient sortis ensemble et se dirigeaient vers une maison de coquette apparence située dans l'un de ces quartiers neufs, élevés, où l'on a encore de l'air, du soleil, de petits jardins, même de grands arbres qui illusionnent le regard et font rêver de la verdure des champs. Comme je ne pourrai rester qu'un instant avec Jeanne, dit Lucien à Marcel, tu voudras bien, n'est-ce pas, l'aider à finir la soirée? N'aimerait-elle pas mieux l'achever seule, sans ma compagnie? Allons donc, la solitude, c'est l'épouvantail des femmes, et le tête-à-tête avec un charmant garçon comme toi n'a rien que d'attrayant. Jeanne est toujours fort gracieuse quand tu m'accompagnes chez elle, même à diverses reprises, elle m'a dit « Amenez-moi donc votre ami ». Diable, cela pourrait donner à penser. Serais-tu jaloux, par hasard? Dieu me garde de cette infirmité de l'amour. Impossible de travailler avec l'inquiétude qu'elle jette dans l'esprit. On est jaloux comme on est malade sans le vouloir. La jalousie n'est jamais le gui parasite de la fantaisie. Et l'amour, entre Jeanne et moi, c'est tout simplement l'entente cordiale de deux fantaisies. Rien que cela? Mais oui, est-ce elle, est-ce moi, qui rompra le premier le traité écrit sur la feuille volante d'un baiser? Je n'en sais rien, et ma foi, je ne m'en préoccupe guère. De part et d'autre, nous ne nous sommes rien promis à perpétuité, et alors, liberté complète. Très bien. Voilà comment un homme qui a un peu la science de la vie et qui songe à l'avenir, gouverne les choses du sentiment. « Tu as des idées administratives très développées, » dit Marcel en souriant. « Je suis sûr qu'en amour, toi, on te refait toujours. »« C'est possible, mais cette organisation sentimentalo-sociale arrange-t-elle Madame Bertel aussi bien que toi ?»« Parbleu, Jeanne est une femme très spirituelle et qui mène la vie fort spirituellement. Elle a déjà eu plusieurs amants, c'est connu cela. » Et je n'ai point la fatuité de me croire le dernier numéro de ses amours. En somme, c'est une délicieuse femme, toute de premier mouvement, et avec laquelle on ne perd point son temps à soupirer en regardant les étoiles. Le temps est une chose si précieuse pour nous autres artistes. Il me semble que tu ne la flattes pas. Mais je la trouve charmante. Avec beaucoup de restrictions, pourtant. Je l'aime mille fois mieux avec ses fantaisies, ses caprices, ses toquades, que si je la voyais se planter en saule pleureur dans ma vie. Dieu me garde de ces femmes à grands sentiments qui placent leur cœur à fond perdu et vous font payer à perpétuité les intérêts d'une heure de plaisir. Il me semble, à moi, qu'une femme peut avoir du cœur sans être ennuyeuse. La vertu, mon cher, c'est la ligne droite, c'est la grande allée bordée de buis du jardin à la française. Et rien n'est fastidieux comme cela. C'est régulier, ça a de l'air, j'en conviens, c'est même grandiose, mais à distance et tout noyé dans les lointains. Tais-toi, reprit Marcel avec impatience, tu vaux mille fois mieux que tes paradoxes. Tiens, quelle petite colère! Mais oui, tu m'exaspères parfois. Ne criez donc plus avec cors et trompettes, comme vous faites depuis 4000 ans, que la femme est légère et que bien folle est qui s'y fie. Nous la calomnions pour justifier notre inconstance. Elle a, au contraire, un instinctif besoin de se donner, de se perdre dans le cœur de l'homme. Baste, baste, reprit Lucien, théorique tout cela. Il sonnait chez Madame Bertel. Un domestique les introduisit dans un petit salon, élégant, intime, surchargé de ces mille superfluités qu'on aurait de la peine, en province, à caser dans une maison entière, un salon qui vivait, qui pensait, qui avait de l'esprit et de la désinvolture. Et pourtant un intime malaise courait, impalpable, sur toute chose. On sentait là une espèce de désaccord entre la vie matérielle et la vie morale, désaccord qu'on rencontre presque partout. Nous sommes tous plus ou moins de pauvres saltimbanques dont le cœur grelotte sous de brillants costumes. Les uns battent la grosse caisse et jettent leur lazie à la foule pour étourdir le public et s'étourdir eux-mêmes. Maintes femmes, comme la Mignon, chantent et pleurent en songeant au pays des orangers. Madame Bertel était seule dans son salon, assise, ou plutôt couchée à demi sur un canapé, dans cette pose délicieuse que les peintres, quoi qu'ils fassent, ne peuvent donner à leur modèle, parce que son charme est l'inapprêté, l'inattendu. Elle tendit aux deux jeunes gens sa main fine, souple, caressante, main de femme qui dit tant de choses, non pas seulement dans la configuration de ses lignes, mais dans la façon dont elle se contracte ou se détend. Il y a dans un serrement de main un poème qui finit, un poème qui commence. Il y a les horizons perdus du rêve, les que sais-je du cœur, et les souvenirs rétrospectifs d'un lointain bonheur. Et ils causèrent comme on cause dans le monde, où souvent on dit tant de choses pour ne rien dire, où parfois tout un drame se révèle dans un seul mot, insignifiant d'apparence. Lucien avait raison, Madame Bertel était une délicieuse maîtresse, blonde et charmante encore, quoiqu'elle côtoyât la trentaine. Son œil bleu était plein de caresses, sa bouche, plus voluptueuse que sensuelle, avait souvent dû dire « je t'aime ». Elle ressemblait aux déesses de Boucher, mais ses formes étaient plus fines, son front plus songeur, son regard plus chercheur. C'était une âme oubliée au temps joyeux des petits soupers et que le souffle inquiet du XIXe siècle achevait d'épanouir. Quoique fêtée dans le monde pour sa fortune et la position de son mari, plusieurs histoires galantes, dont elle était l'héroïne, se chuchotaient quand elle entrait dans un salon ou quand elle en sortait. Depuis 6 mois, rien que 6 mois, Lucien était son amant, et pourtant, le regard de Jeanne, lorsqu'il s'arrêtait sur Lucien, n'était plus celui de la femme éprise qui se livre tout entière dans un mystérieux rayonnement. Lucien, lui aussi, était distrait, préoccupé de maintes autres choses que de sa maîtresse. Son regard ne s'arrêtait sur elle que par occasion. On devinait qu'il la savait par cœur, physiquement du moins, et qu'il n'avait plus rien à apprendre en elle. Après une demi-heure de causerie, Lucien se leva. « Quoi ? Vous partez ?» dit Jeanne. « Ne m'en veuillez pas, il faut que j'aille finir cette soirée d'une façon beaucoup moins charmante chez Monsieur de Tardan, qui doit, m'a-t-on dit, me faire décorer son hôtel. Mais je vous laisse Marcel. Quand vous reverra-t-on ? Mardi soir, si vous le voulez bien. Comme cela tombe mal, j'ai précisément pour mardi un bal auquel il m'est impossible de manquer. Oh, bien alors ! Vous sous-entendez une méchanceté qui n'est nullement dans ma pensée. Qu'aurais-je à dire, moi ? Si nous commençons le chapitre des récriminations, reprit Lucien en souriant, ce sera long. J'aime mieux le reprendre mercredi, si toutefois vous n'avez aucun empêchement pour ce jour-là. Mercredi, soit. Allons, au revoir. Et Jeanne et Marcel étaient restés ensemble, et ils se taisaient l'un et l'autre, et leurs visages étaient assombris. Les poètes donnent toujours à la rêverie des couleurs multicolores. Ils lui font déployer ses ailes d'or, ils déroulent son voile d'azur, ils l'enveloppent d'une lumineuse atmosphère. C'est à peine si un peu de gris apparaît çà et là dans le fond du tableau. Cependant, la rêverie ne se plaît que dans les teintes dégradées du crépuscule, elle s'éclaire du rayon brisé d'un amour qui finit, plus souvent que des premières lueurs d'un amour qui commence. Elle a des frôlements d'ailes de chauve-souris, plus souvent que des gazouillements d'alouette, et quand elle s'incline sur le cœur, elle y laisse tomber une larme. Rarement, elle l'illumine d'un sourire. Le vent souffle, le ciel est bas. La vague déferle sur la grève, la mouette rase cette mer houleuse. Vous, immobile sur la falaise, vous embrassez d'un regard cette mobilité vertigineuse et ses lointains troublés. Vous écoutez les cris douloureux qui montent du gouffre tournoyant, votre cœur se gonfle de maintes tristesses, et vous rêvez. Nous sommes à l'automne. Les fils de la Vierge, comme des espérances brisées, flottent à l'aventure. Les roses pâlissent ses feuilles, toutes humides d'une rosée que le soleil ne vient plus sécher. Et pourtant, dans le feuillage jauni, un bouton souffreteux cherche encore à s'épanouir. Vous vous arrêtez, vous le contemplez, vous dites « N'est-il point trop tard pour qu'il fleurisse, pour qu'il parfume ?» Et vous rêvez. On touche au dernier jour de novembre. Ni fleurs dans les parterres, ni feuilles aux arbres, des branches toutes nues que secoue la rafale. Le ciel est gris, noyé, sans teinte. La pluie chasse contre les vitres où votre front s'appuie. « Plus rien, murmurez-vous, et vous rêvez. » Les rêves de bonheur sont toujours unicolores. Ils se résument dans un baiser. Le rêve n'étant que le mirage d'une sensation plus ou moins lointaine, il est tout simple qu'il reflète les mélancolies de la vie. Jeanne et Marcel rêvaient donc, eux aussi. Enfin, sortant de sa songerie, Jeanne s'écria « Eh bien, que faisons-nous donc ? Moi, je suis stupide comme un vieux journal de mode. » « Vous êtes triste, peut-être, parce que Lucien vous a quitté trop tôt ?»« mais non » reprit-elle en rougissant, avec un certain embarras. « Pourtant... »«
Quoi ?»«
Rien, madame. » »«
Soyez franc, ce « pourtant » veut dire bien des choses. »«
Eh bien, vous êtes jeune, belle, enviée. Vous aimez, l'on vous aime. »
Jeanne secoua la tête.
Et vous aussi, vous me croyez heureuse parce que vous me voyez le sourire aux lèvres, et depuis que vous venez ici avec Lucien, vous n'avez pas cherché à pénétrer plus avant que ce sourire de surface. Croyez-moi, monsieur Marcel, ce sont parfois les souffrances les moins palpables qui sont les plus aiguës.
Cela est vrai pour le grand nombre, mais pour vous...
Et pourquoi serais-je plus heureuse que le grand nombre? Je suis aimée, dites-vous. Mais suis-je comprise? Il y a dans le cœur de la femme quelque chose que l'homme ne comprend pas ou qu'il ne veut pas chercher à comprendre et dont il se fait une arme pour la torturer.
Ne lui en veuillez pas trop, le plus souvent c'est sans le savoir.
Pourtant, reprit Jeanne en souriant, les hommes ont la prétention de tout savoir. Cette ignorance tient bien plus à leur organisation qu'à un parti pris de leur part. Chez les hommes, c'est la sensation qui domine. Chez les femmes, c'est le sentiment. Impossible alors de s'entendre et même de se comprendre.
C'est donc pour cela qu'on s'appelle, qu'on se cherche, qu'on croit parfois se trouver. Mais où l'on ne s'aime pas encore, où l'on ne s'aime déjà plus. Quelquefois, on ne s'est jamais aimé. Et Jeanne soupira longuement.
« Mais vous aimez Lucien ?»«
C'est-à-dire... Et pourquoi ne vous le dirais-je pas ? Eh bien, j'ai cru l'aimer, maintenant je ne l'aime plus. »«
Déjà ?» s'écria Marcel, et il tressaillit.
« Hélas, oui, déjà !»
Et elle darda ses grands yeux bleus sur le visage du jeune homme pour deviner la cause de son tressaillement.
« Que voulez-vous ? Ce n'est pas ma faute. Lucien ne m'a jamais complété qu'imparfaitement. »
« Avec un autre, serez-vous plus heureuse ?»«
On espère toujours. »
Et cette espérance, souvent déçue, creuse une ride au cœur.
« Mon Dieu, ne faut-il pas qu'il vieillisse comme le visage ? Dites-moi, monsieur Marcel, vous devez bien l'aimer, la femme que vous aimez. »
« Pourquoi cette question ?»«
Je ne sais. Il me semble qu'il doit en être ainsi. »
« Vous êtes curieuse, madame. »
Cette curiosité, appelez-la attraction, besoin de trouver un écho aux vibrations étranges qu'en pleurant, on écoute passer dans son cœur solitaire.
« Que voulez-vous dire ?»
Et Jeanne saisit la main de Marcel.
« Oh ! Reprit-elle vivement, ne leur jetez pas la pierre à ces belles chercheuses, à ces vierges folles, comme on les appelle. Elles souffrent, croyez-moi. Elles courent sans cesse vers un idéal impossible. Elles goûtent du bout des lèvres à ce qu'on appelle l'amour, puis elles s'écrient « Ce n'est pas cela, cherchons !» Et elles arrivent à la vieillesse, toujours affamées, toujours inassouvies. C'est une triste histoire que la leur. On la raconte trop souvent et l'on n'a pour elle que le rire, que le mépris. Laissez-moi vous dire ma vie, monsieur Marcel. Peut-être qu'après m'avoir écouté, vous me jugerez moins sévèrement. »
Et, gardant la main du jeune homme dans les siennes, elle continua. « À 16 ans, je rêvais l'amour tel que je le rêve encore en mes heures de recueillement. 16 ans. C'est l'éclosion du cœur au souffle vague et inquiet des sens. La femme sent courir en elle des bruits sans nom, des frissonnements étranges. Elle est dominée par un besoin vague de souffrir et de jouir. Elle a de fébriles curiosités. Elle ne sait pas encore ce que c'est qu'un homme, mais elle comprend déjà l'amour, parce que l'amour, il est en nous, et quand il s'éprouve, il ne fait que s'irradier. On me maria, comme on marie presque toutes les jeunes filles, à un monsieur ni beau ni laid, ni bête ni spirituel, un zéro multiplié par une 20 000 livres de rente. On me dit qu'il était fort épris de moi, que c'était un homme charmant, et que si je ne l'aimais pas encore, je l'aimerais au bout de quelques jours. J'étais si naïve que je crus tout cela, que je crus que le mariage allait réaliser mon rêve d'amour. Quelle déception, grand Dieu! Je restais longtemps à le pleurer, ce rêve que je croyais ne plus pouvoir recommencer avec un autre, puisque je m'étais solennellement donné à un homme pour toujours. J'ignorais encore que le toujours du mariage, à Paris surtout, n'est qu'une vaine formule, un hommage lige de l'antique vassalage qui ne lie plus personne, un acte de foi qu'on répète encore par habitude, mais auquel on ne croit plus. Et quand mes yeux se furent dessillés, et quand j'eus compris que la fidélité conjugale n'était plus que lettre morte, alors je regrettai les années que j'avais passées à souffrir, à pleurer, à me poser en victime. Il me semblait que la vieillesse allait venir sans que j'eusse le temps de savourer les joies rêvées. Je voulus me hâter d'aimer et je me laissai prendre aux paroles tendres, aux regards noyés, au trouble que soulève toujours dans le fond de l'âme une voix émue qui vous dit « Je vous aime ». Puis un froid morbide courait en moi, mon cœur se refermait comme une fleur que vient mordre une gelée d'avril, et je m'écriais avec angoisse « Ce n'est pas celui-là, cherchons !» Car je voulais par l'amour compléter mon esprit, mon cœur, mes sens, mon être entier, et dans l'homme auquel je me donnais, je me heurtais douloureusement, soit à une nullité habilement dissimulée, soit à un profond égoïsme, soit à ce mur que l'homme intelligent élève en lui comme une digue pour sauvegarder sa supériorité, avec cette idée fausse qu'il s'amoindrirait si le libre échange du cœur et de la pensée se faisait entre la femme et lui. Un instant, je crus que Lucien réaliserait enfin mon espoir. Mon attente fut encore déçue. Il gardait toute la sève de son esprit et de son cœur pour grandir son talent. Il ne me donnait que ce que l'art ne voulait pas. J'avais déjà tant cherché que j'étais lasse. J'éprouvais un certain dégoût en me reflétant en moi-même, et je me résignais, et je me soumis à ses idées, et j'essayais de trouver le bonheur dans ce demi-bien-être. Le bonheur n'est pas venu. « Mais Lucien ne me connaît pas, » reprit-elle après un moment de silence. « Et il n'a jamais cherché à me connaître, mais il ne sait de moi que ce que lui a donné le plaisir. Mais il n'a jamais plongé son regard dans ce monde mystérieux, confus, toujours en fusion, et pour ainsi dire en formation, de l'âme d'une femme. Oh, j'ai souvent souffert avec lui !» Jeanne se tut, et, relevant ses grands yeux limpides et chatoyants vers Marcel, elle lui dit timidement « Me détestez-vous ? » « Je vous comprends et je vous plains, pauvre inassouvie. »« C'est tout !» murmura-t-elle avec désespérance. « Que voudriez-vous donc ? » dit Marcel interdit. « Être aimé !» reprit Jeanne avec une expression indéfinissable en se penchant vers Marcel. Lui devint pâle et reprit « L'amour est impossible entre nous, madame. » Jeanne tressaillit et, se rejetant sur le canapé, « Que vais-je donc faire de mon cœur, de mon esprit, de tout moi qui s'en allait à vous ?» Et Marcel, faisant un effort sur lui-même, « Essayez encore d'aimer Lucien, votre tendresse le convertira peut-être. » C'est toujours par le cœur des femmes que les pensées généreuses arrivent aux hommes. Jeanne secoua la tête avec accablement. « C'est fini, c'est bien fini » murmura-t-elle. Un rapide éclair jaillit de l'œil de Marcel. Jeanne surprit cet éclair et, enveloppant le jeune homme d'un long regard investigateur,
« Qui êtes-vous donc ? » s'écria-t-elle.
Marcel pâlit encore.
« Je suis un ami de Lucien, madame.
Il y a en vous quelque chose d'étrange, de mystérieux, d'irritant, qui attire et qui fait peur. Vous avez souffert, vous aussi ?»«
Souffert du vide, oui. » »«
Eh bien,
je vous le répète, c'est impossible. » »«
Soyez franc, dites-moi pourquoi. » »«
C'est impossible. » »«
Si je ne puis espérer votre amour, ayez au moins pour moi la confiance d'un ami. »
Il est des choses si tristes qu'il faut les taire.
Même à ceux qui vous aiment, Marcel.
Et Jeanne darda encore ses yeux sur les yeux du jeune homme.
Oui, dit-il avec effort, croyez-moi, mieux vaut ne plus nous revoir.
Il se leva, prit les mains de la jeune femme et lui dit avec mélancolie,
ne cherchez pas à approfondir ce qui est insondable. Laissez la gaieté refleurir dans vos doux yeux bleus. Espérez en des temps meilleurs. Un jour, quelque noble cœur d'homme vous comprendra sans doute. Le pays d'utopie, c'est l'avenir. Mais si vous voulez être heureuse, ne cherchez pas trop, attendez. » Et il quitta le salon. Après son départ, Jeanne resta longtemps songeuse, immobile, les joues en feu. Enfin, elle s'écria,
« Il me semble que je l'aurais bien aimé. » Mais qu'est-ce donc qui se cache dans les ondes mystérieuses de son regard? Qu'est-ce donc ce je ne sais quoi qui circule dans tout lui?
Hélas, je l'aime. Du moins, je crois l'aimer. »
Et les lignes de son visage s'assombrirent encore et ses pleurs coulèrent de nouveau. Pendant que Jeanne songeait, dans une petite mais coquette chambre de garçon, un jeune homme, appuyé au bord de sa fenêtre, aspirait la brise du soir. Çà et là, les lumières s'éteignaient dans la brume. Les voitures cessaient de rouler. Sur les toits, des chats commençaient de sanglants duels à la griffe en poussant des cris de douleur et de rage. De temps en temps, de petits frissonnements couraient dans les arbres des jardins voisins. La lune ouvrait dans le ciel son œil fixe et chagrin, en inondant de ses clartés le visage du jeune homme, dont les épaules frissonnaient à chaque frémissement du feuillage. Après avoir longtemps rêvé, il ferma la fenêtre et, posant la bougie sur la cheminée, il retira son paletot, dénoua sa cravate, ouvrit sa chemise, et de blondes et rondes et mignonnes épaules de femme se reflétèrent dans la glace. Elle se regarda longtemps, se souriant à demi, comme fait toute femme qui a la conscience de sa beauté.
« Et pourtant, murmura-t-elle en soupirant, je suis belle, moi aussi. Elle ne l'aime plus, elle me l'a dit. Pourquoi maintenant ne m'aimerait-il pas? Car je l'aime, oh, je l'aime !»
Et ses yeux se fermèrent à demi, et sa tête se renversa sur ses épaules frissonnantes, tout envahie qu'elle était par l'amour.
« Si je... « Mais non, taisons-nous, il ne devine rien parce que mon cœur ne lui dit rien. »
Et elle soupira profondément.
« Oh, si j'avais la force de fuir, de m'éloigner de lui! Mais où irais-je? Ne souffrirais-je pas plus encore? Attendons, peut-être qu'un jour... »
Et une lueur d'espoir passa phosphorescente dans ses yeux gris. Puis elle continua une toilette de nuit, toute féminine cette fois, et son bras s'arrondit, et sa tête s'inclina sur l'oreiller avec une morbide souplesse. Mais son cœur continua à battre bien avant dans la nuit, troublé par de tumultueuses pensées.